Salut les joueuses, salut les joueurs. Nous sommes en mars 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est LE podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Caducée et je suis accompagnée d'Elodie. Bonjour Elodie.
Salut Caducée.
Comment vas-tu?
Eh ben écoute, ça va particulièrement bien aujourd'hui. On est en pleine interview et c'est très très cool.
Et nous accueillons Tatiana Polouchine de chez Ori Games. Tatiana, vous la connaissez sûrement par la présentation notamment des petits pitchs sur les réseaux sociaux d'Ori Games. Bonjour Tatiana et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous deux, merci pour l'invite. Franchement, je suis trop contente d'être là. C'est super chouette. Puis ça fait une petite pause, je ne vais pas vous mentir, dans mon festival. Je ne fais que de parler. Je sais que j'ai une voix suave, hein, mais là, on est sur un niveau plus que d'habitude.
Et le casque, là, nous fait notre petite bulle. Ah ouais, on est un petit peu isolé du bruit, c'est pas mal.
Ça fait trop de bien, voilà.
Avant de commencer l'interview, nous avons pour tradition de proposer une série de questions fil rouge que nous posons à tous nos invités. Est-ce que tu es prête pour l'exercice?
Je suis prête pour l'exercice.
Alors on va te demander des noms de jeux, on va te demander tes as d'or, donc c'est les tiens, c'est pas forcément ceux qui ont été nommés, tu es la seule jury et tu fais absolument le choix que tu veux parmi tous les jeux qui existent au monde entier, du monde entier, de l'univers.
De peu importe le temps, peu importe.
Voilà. Ok. Donc pour toi, quel est l'as d'or du jeu pour rire avec tes potes?
L'as d'or du jeu pour rire avec mes potes, j'essaye de réfléchir rapidement, même si j'ai peu de cerveau. L'azor pour rire avec mes potes. Je crois que le Codenames, nous, on se tape quand même des énormes barres. Et ça sera l'azor, mais de toujours, quoi. Donc ce sera ça. Je ris avec mes potes sur un Codenames.
Quel est l'azor du jeu qui t'a fait le plus fumer le cerveau?
L'azor du jeu qui m'a fait le plus fumer le cerveau, je pense que c'est... Eh ben, je vais vous dire un petit chronologique, mais un chronologique qui n'est pas encore sorti. Tu vois le chronologique que là, on va sortir. J'ai pété des neurones dans mon cerveau, mais très, très fort. Donc, ce serait des jeux de déduction en global. Et ce serait chronologique.
Quel est l'as d'or du jeu auquel tu ne veux plus jamais rejouer?
Ah, c'est dur, ça. C'est pas gentil. Hein. Un jeu auquel je ne veux plus jamais rejouer. C'est dur comme question. Peut-être j'aurais dû me préparer. Hein,
balance.
Je balance. Non, mais surtout, j'essaie de réfléchir. Parce que c'est plus... Il y a peut-être des gens avec qui j'ai plus envie de rejouer, tu vois. Mais un jeu auquel t'as plus envie de rejouer, c'est dur de tous les temps. Je vais trouver.
Après, si t'as pas de réponse, t'as pas de réponse.
Tu peux dire Joker.
Bah, je crois que Joker, parce qu'en fait, je pense que je serais toujours partante pour rejouer à un truc que j'ai pas aimé. Parce que je vais me dire, bah, c'est peut-être que j'étais pas dans les bonnes conditions, peut-être que pas avec les bonnes personnes.
Ok.
Peut-être j'ai cramé mon Joker trop tôt, hein. Je sais pas.
Non, t'inquiète. T'as plusieurs jokers. Ah, on est sympa, bien. On donne un nombre de jokers illimité.
Youhou!
Quel est l'as d'or du jeu auquel tu penses encore 3 jours après la fin de la partie?
Oh, Alice is Missing, on se raconte nos parties. Comme si on avait vécu un truc ensemble, en fait. Et comme t'as un truc où tu parles sur le téléphone, on est là. Ah ouais, tu te souviens quand... Non, en fait, on a joué. J'étais pas vraiment dans une cabane abandonnée. Mais voilà. Ouais, les jeux narratifs, en fait.
Et quel est l'as d'or du jeu le plus moche?
Balance.
Le jeu le plus moche, c'est Skijo. Hein. C'est Skijo, désolé, hein. Il est dégueu, mais ça marche. Hein.
Et hors Skijo? Parce que c'est un peu facile, Skijo, quand même.
Bah, c'est facile, mais c'est vraiment moche, quoi. Un jeu très moche, Les Aventuriers du rail, je le trouve quand même globalement pas ouf. Okay. Moi, c'est pas du tout mon style.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On va passer à l'interview maintenant.
Eh bien, c'est parti.
Alors, tout à l'heure, en introduction, je parlais des petits pitchs.
Ouais.
Hein, donc, c'est vrai que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs te connaissent probablement pour ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel, de comment t'es arrivée à faire les petits pitchs qui ont, je crois, commencé en février 2021, si on s'est bien renseigné.
C'est ça, vous avez bien fait vos devoirs, clairement.
Et voilà, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça?
Ben c'est un peu par hasard. Moi, je viens d'un parcours de direction artistique. Donc, j'ai fait des études de design, de création et pour être directrice artistique, tout en agence de communication, en fait. Et en fait, j'étais en sortie de master et la sortie de master a coïncidé avec le Covid. Qui dit Covid dit t'as beau chercher, les entreprises ne cherchent pas autant que toi, clairement. Donc, j'ai fait un peu de freelance. J'ai fait un peu de freelance pour des potes qui lançaient leur marque. Donc, je faisais des logos, je faisais des chartes graphiques, des trucs comme ça. Et en fait, il se trouve que moi, je vis dans le milieu du jeu depuis ma naissance, puisque mon paternel, donc Igor Polouchine, lui, bosse en maison d'édition depuis maintenant des années. Et avant, il faisait de la communication. On essaie toujours de faire autre chose que ses parents, hein, et puis finalement, on se reprend une petite claque dans la gueule. Mais non. Donc, en fait, ils avaient besoin, un moment, de quelqu'un pour communiquer sur leur jeu. Parce qu'ils ont capté, c'est des boomers globalement, mais des gentils boomers, et ils se sont rendus compte que tout allait trop vite pour eux et qu'il allait falloir se mettre sur les réseaux, il allait falloir créer des choses. Donc moi, j'étais pas du tout là-dedans. Et ils se sont dit, ah, mais on aime beaucoup des contenus comme contenu de fanfic ou de nana qui parlent de jeux de manière assez fun et de pas être dans un truc sérieux parce que ça leur ressemble pas. Il a tilté et s'est dit, mais c'est vrai que je connais une personne qui a ce type de caractéristiques de naissance que j'ai moi-même nourri. Est-ce qu'on lui demanderait pas de faire un test? Parce qu'à la base, ils se sont dit, on fait un test en fait pour voir si ça marche et peut-être qu'on te demandera de faire une ou deux vidéos de temps en temps pour présenter nos jeux, tu vois. Et il savait que j'avais créé mon statut en freelance. Moi, je suis là, bah oui, mais j'avais jamais fait ça, j'avais jamais parlé devant une caméra, je savais juste dire des trucs à ma manière, et je leur ai demandé comment vous voulez que ça se passe, en fait. Ils me disent, bah, t'as carte blanche, ok. Donc, je teste un premier jeu le midi, donc le grand jeu, qui est la première vidéo YouTube. Si vous voulez aller fouiller, ça pique un petit peu, mais c'est quand même mignon. Il faut garder les premières vidéos. Les créatrices et les créateurs, gardez vos premières vidéos parce que c'est comme ça qu'on se rend compte le chemin parcouru et c'est toujours chouette. Il faut avoir un regard gentil sur le soi du passé. Ouais, ça part en philo, mais c'est dur quand on fait du montage et quand on fait de la vidéo d'avoir un regard gentil. Et donc bref, je teste ce premier jeu à midi et l'heure d'après, je tente une présentation un peu bancale en ayant un espèce de prompteur papier tenu par mon cher père avec écrit « C'est 30 minutes, c'est 1 à 4 joueurs et ah ouais, ça c'est les noms des auteurs ». Donc voilà. Et moi, l'avantage, c'est que pendant mes études, j'avais appris les logiciels de montage. Un petit peu, j'avais touché à Premiere, etc. Je maîtrise toute la suite. Et donc, créer des choses et faire du montage, ça me paraissait pas trop compliqué. Donc, je fais ce premier petit montage qui est un peu bancal. On le poste et voilà. Et en fait, très vite, les retours ont été hyper bons. Et on a fait quelques jeux comme ça. Et j'étais censée rester, je sais pas, en freelance 4 mois, quoi. Vous noterez la date du jour.
Nous sommes le 1er mars 2025.
Exactement. Et en fait, j'ai un peu créé mon poste comme ça parce que je cherchais en même temps du taf, du coup en agence. Et plus je cherchais, plus je passais des entretiens, plus j'étais là. Mais en fait, les missions que je suis en train de rechercher là, c'est des missions qui me font vachement moins kiffer que d'être totalement créatrice d'un produit du début à la fin où j'écris le texte, je filme, je monte et j'ai une liberté qui est assez folle. Et donc, c'est parti de là. C'est parti de « bon, bah je vais vous dépanner ». Et maintenant, j'ai créé un univers qui est dans lequel je me sens bien et qui est chouette, quoi.
Et donc là, ton statut chez Ori Games, qui a été créé pour l'occasion, c'est ?
C'est un statut multicasquette. Alors, ça dépend de à qui je parle, mais je vais être responsable de toute la communication. Parce que au-delà de créer les vidéos, du coup, j'ai tâté un petit peu. J'aurais dit, vous savez, ce serait bien de développer votre Instagram, de développer vos réseaux sociaux, de faire d'autres vidéos. Donc, je gère tous les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, il y a écrit « Content Manager » et « Responsable Communication ». Donc, c'est ça que je veux faire. Et de la direction artistique pour tous nos contenus web. C'est moi qui vais décider de ce à quoi ça va ressembler. Plein de casquettes. Puis, je vais aussi faire plein de conception rédaction typiquement pour nos jeux parce que la communication ça touche à tout. Donc en fait ça a commencé par la vidéo et maintenant dans des petites boîtes de toute façon vous savez que tout le monde fait tout et tout le monde doit être un petit couteau suisse. Le vrai terme c'est couteau suisse si tu me demandes mon taf.
Ça fait moche sur un contrat mais
en vrai c'est ça.
Alors que t'es souvent en jaune et pas en rouge, faut que tu changes de couleur.
Faut que je change de couleur, faudrait que j'aille chez Super Meeple et que je porte un t-shirt rouge. C'est ça clairement.
Est-ce que tu peux nous préciser un peu en quoi consiste exactement ton travail de directrice artistique ? Parce qu'autant la vidéo, on le voit, on sent l'écriture parce que t'as une sacrée plume.
Merci.
Et on voit le montage, mais la direction artistique, en quoi ça consiste ?
Alors c'est assez léger là dans mon corps de métier, mais ça va être plutôt sur quand on va décider de faire de la com sur un jeu, tu décides ok la com sur le jeu elle va ressembler à ça. On a un directeur artistique en interne donc Igor qui lui va faire la direction artistique des jeux. en eux-mêmes. Donc décider, l'illustration, elle doit ressembler à ça, on va contacter tel illustrateur. Moi, ça va être sur toute la partie web. Ça va être la direction artistique du site, par exemple, tous nos assets graphiques, décider comment on se représente, nous, en tant qu'entreprise. Et donc, je pars d'une direction artistique qui existe déjà, donc ce logo d'un vert magnifique et d'un orange flamboyant. Et ensuite, de gérer un petit peu l'unité graphique de toute notre manière de communiquer.
Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu écris une vidéo pour les petits pitchs du début à la fin? Et combien de temps ça te prend?
Ça dépend du jeu, parce qu'évidemment, avant de l'écrire, il faut déjà que je teste le jeu. Et parfois, je veux le tester plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien tout capté. Et ensuite, je relis les règles en long, en large et en travers pour être sûr de pas manquer un point de règle. Ce qui est marrant, parce que moi, j'explique pas du tout toutes les règles. Quand c'est un petit jeu, je vais essayer de faire en sorte que ce soit une vidéo qui fonctionne et pour la vidéo règle et pour le pitch, sans qu'on s'en rende trop compte. Et donc, d'essayer d'avoir tout pour renvoyer les gens vers cette vidéo-là et qu'en fait, t'aies pas l'impression d'avoir mangé une vidéo règle, tu vois. Et à l'inverse, pour les gros jeux, je vais prendre les infos les plus importantes. Donc, en général, je vais prendre les règles à côté de moi, les règles du jeu, et essayer de retracer, dans l'ordre, je vais avoir besoin de faire ça. Ça peut être pour des gros jeux, par exemple. Et pour du petit jeu, je vais surtout pas regarder les règles. Je vais me dire comment j'expliquerai ce jeu à quelqu'un qui est en face de moi. Puisque ça va être un format oral, en fait. Et donc, c'est tellement différent la manière qu'on a d'écrire pour un support qui sera lu, qu'un support qui sera écouté ou regardé. Et donc, parfois, je me parle toute seule. Clairement, c'est... Bon, de toute façon, je me parle toute seule quand je filme, parce que je filme toute seule. Mais donc, ouais, je vais essayer de me raconter « Ouais, ce jeu, ça ressemble à ça, c'est un jeu, tu vas avoir telle sensation. » J'essaie de me concentrer sur qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de cette vidéo. Et là, j'écris. Parfois, il y a des blagues qui viennent. Donc là, faut faire gaffe parce que une blague que t'as préparée, souvent elle sort moins bien qu'une blague que t'as pas préparée. Hein. Donc je me force, j'essaye. Alors c'est compliqué parce que mon cerveau fonctionne vraiment. J'entends un mot, j'ai envie de sortir une blague. Je pense à un autre mot, je pense à une chanson. Enfin, les vannes sont ouvertes en permanence. Et donc quand j'écris, je suis là, ok, on ferme les blagues, quitte à les rouvrir à la fin en mode, ok, là on fait 1000 blagues et on referme. Pour garder de la spontanéité, parce que c'est ce qui plaît et c'est ce qui fonctionne, c'est que ce soit un peu spontané, enfin un peu beaucoup spontané quand même. Donc une fois que j'écris mon pitch avec un semblant de règles quand même et le ton que je veux lui donner, j'essaie de tourner pas longtemps après, parce qu'en fait je suis toujours en réflexion en fait. Entre le temps où j'ai écrit le pitch et le temps où je vais tourner, j'essaye de trouver de l'inspi un petit peu partout. Tu vois, même je pense déjà aux inserts vidéo que je vais pouvoir foutre dedans, me dire « Ah mais cette phrase-là me fait penser à ça, ce son-là ». Et je me dis, pense pas trop, parce que après, faut quand même que ce soit spontané. Et ensuite, je tourne. Donc ça peut me prendre une demi-journée si c'est un gros jeu. Sinon, ça peut être une heure parce que je suis grave inspirée. Et parfois, je le commence le soir et le matin, je reprends avec un œil neuf pour que ce soit plus clean et que mes mots soient mieux choisis. C'est ça qui va être dur aussi. C'est que choisir les bons mots pour expliquer les jeux, vous savez, vous êtes dans le milieu du jeu, c'est crucial, parce que c'est ce qui va faire que la personne en face de toi, elle capte ou pas ce que t'as voulu lui dire. C'est un vrai taf d'écrire. Et ça me plaît. Donc, en vrai, c'est trop cool. Et une fois que j'arrive devant ma cam, j'ai mes notes qui sont posées, si je les oublie pas, ça m'arrive de ressortir et d'aller les rechercher. En fonction du jeu, j'ai beaucoup d'installations à faire ou pas, donc ça aussi, ça prend du temps. Je pose ma cam. Et d'abord, je déroule. Je déroule au maximum ce que j'ai écrit. Évidemment, je pense à d'autres trucs. Et là, je pense à des blagues. Et puis là, ça prend une heure. Et puis ça prend 2 heures. J'ai souvent 2 heures de rush pour 5 minutes de vidéo. Et dites-vous que dans les 2 heures, il y en a des conneries. Hein. Il y en a.
Un petit bêtisier, non ?
Eh il y en a déjà eu 2. Et vous inquiétez pas que le 3e est en préparation, parce que c'est clinique à ce niveau-là, hein, vraiment. Il y a de quoi rire, il y a de quoi se moquer. Et c'est fait pour. Donc non, il y a des vidéos, c'est vachement évident. Parce que je vais avoir mieux préparé ma vidéo. Et donc du coup, là, je peux dérouler. J'ai les bonnes blagues au bon moment. Je trouve que c'est assez. Et je suis assez contente de ce que j'ai produit. Et ensuite, j'ai tous mes plans d'insert. Donc que je tourne après. Donc des plans de zoom, etc. Parfois, dans les 2 heures, ça compte... Ça compte tout ça, ça compte tous mes plans. Et parfois, ça dure plus longtemps parce que je me rends compte, mais attends, est-ce que ce que je suis en train de montrer, je l'ai assez bien expliqué? Alors que oui, hein, je l'ai préparé, je l'ai écrit. J'ai toujours une petite sensation de, je sens celui-là, je l'ai pas bien fait, je l'ai pas bien dit. Donc je retourne un bout, je suis quand même dans l'ajustement jusqu'à la fin. Et je prends plein de photos aussi. Plein de photos qui vont nous servir pour nos réseaux, qui vont nous servir pour la com plus tard. Souvent, si ma caméra surchauffe, je me pose, je fais un petit café ou je fais un truc pour les réseaux sociaux. En fait, c'est un temps de tournage que je vais aussi dédier à plein de petites merdouilles. Et donc dans ma tête, je suis là, j'ai 1 heure de tournage. Jamais, ma grande. Jamais. Et ensuite, le montage. Pareil, ça dépend du jeu. Si c'est un jeu qui est assez simple à expliquer, où j'ai bien fait mes inserts, en fait, chaque étape va dépendre de l'étape d'avant. Si je l'ai bien réalisé de manière hyper claire, eh ben, ça va dérouler. Si j'étais un peu fatiguée, que j'ai pas eu le bon truc, eh ben, en fait, ça va me faire ramer sur les étapes d'après. Donc, mon montage, bah, ça dépend. En fait, quand j'étais que sur les petits pitchs, ça me prenait 3 jours max de tout monter, parce que je fais beaucoup d'inserts graphiques, je fais aussi des... Enfin, voilà, j'essaie d'expliquer au mieux le jeu, quoi. Ça me prenait 3 jours grand max. Maintenant, ça s'étale vachement parce que j'ai énormément d'autres tâches à faire. Les petits pitchs, c'est plus du tout mon seul corps de métier. Et donc, bah, quand j'ai du temps, j'ai mon dérochage où là, je cut, mais je garde beaucoup de conneries que j'essaye de garder pour des bêtisiers. Et surtout, je vais pas garder juste la séquence où j'ai bien expliqué le truc. Je vais garder la séquence où j'ai bien expliqué, mais le ton était bon. L'expression de mon visage était bonne et transmet l'idée que j'avais envie de transmettre. Plus ton format il est court, plus ton montage il va avoir besoin d'être précis et d'avoir la bonne intention. Parce que d'un rush à l'autre, parfois tu te dis mais bah ouais, j'ai dit exactement la même phrase, mais je l'ai dit d'une certaine manière. Et là les gens ils sont éclatés de rire, et là les gens ils ont pris ça comme une information normale. Donc puisqu'on a aussi la volonté de faire rire, c'est un step en plus. C'est pas juste tu dois comprendre. Moi j'ai envie que les gens se marrent derrière leur écran et que ce soit du divertissement et pas que de « Ah, il y a des jeux qui sortent ». Non, je veux être un petit moment de pause et de divertissement, quoi.
Mon ancien travail était de bosser dans la vidéo.
Ah ouais.
Et de faire des films institutionnels. Wow. Donc quand je vois tes vidéos, je vois tout ce travail d'orfèvre.
Merci.
Et ça se sent. Et je pense aussi que c'est pour ça que les gens, ils apprécient tes vidéos, parce que on sent que c'est pas juste tu t'es posé et t'as dit des bêtises devant ta caméra,
non.
Que c'est écrit et que c'est réfléchi et ça fonctionne parce qu'il y a du boulot derrière et il se sent ce travail. Enfin, moi, je le sens.
Parce que t'as déjà eu affaire à ces métiers-là. Et d'autres gens qui pensent que justement, juste, oh, elle se pose et lâche des dingueries comme ça, ça me flatte, hein, mais non, je serais humoriste si j'étais capable de faire ça direct.
Pour autant, ta spontanéité, on la sent aussi.
Oui, ah. Oui. Alors, je ne me trahis pas dans mon fort intérieur, hein, vraiment. C'est ça qui est cool, c'est que c'est un format qui me ressemble. Je suis comme je suis. Évidemment, dans toutes les vidéos, je vais être contente de voir les gens. Dans la vie, il y a des moments, comme tout le monde, j'ai des coups de mou. Je suis pas toujours sur ex. Je suis un petit peu plus calme, en vrai, dans la vraie vie. Que les gens le sachent. Je ne serais pas en train de sauter partout. Mais je rentre dans les meubles, je fais tomber, je suis très maladroite, et je dis un nombre de conneries incalculables, et ça, c'est la vraie vie. C'est tout pareil en vrai.
Là, actuellement, t'as presque 80 vidéos sur, je crois que j'avais regardé.
Peut-être même une centaine, ouais. Je crois. Ouais. Ah oui, peut-être celle d'avant. Ouais.
J'ai compté que les petits pitchs pour les 80, je crois.
80 petits pitchs.
Ah oui, à vérifier, mais il me semble. T'as aussi d'autres formats qui apparaissent sur la page, sur la chaîne YouTube d'Ori Games, dont des formats un petit peu particuliers aussi. Bon, tu deviens un personnage public aussi en étant chargé de cette communication et avec ton émission. Et t'as eu des émissions avec d'autres personnalités aussi du monde ludique. Il y en a une en particulier qui nous a pas mal marqué.
La Ludo.
Tout à fait.
Tout le monde m'en parle.
Tout à fait, tout le monde
c'est
t'en
fou,
parle.
Hein.
Mais oui.
Mais ce qui est drôle, c'est que c'est un projet. C'est vraiment parti juste de... J'ai reçu un message vocal sur Messenger en faisant des pattes de Simon. Je suis là, bah, qu'est-ce qu'il me veut ? On s'est croisés plusieurs fois sur des festivals. Notre énergie a fort matché, hein, vous en doutez. Mais il fait, bon, j'ai une idée de bêtise qui tirait bien. Rappelle-moi. Ok, donc là, on se parle. On se rappelle même pas, en fait. On se fait des vocaux interposés avec mon chien qui aboie. Enfin, le chaos commence déjà là. Et il me dit, bah, franchement, c'est une vidéo, t'aurais carte blanche. Et je dis, ah, moi, c'est mon mode opératoire. N'avoir aucun mode opératoire. Et en fait, bah, alors tout le monde me dit, mais ça va, ça devait être horrible et tout. Oui, on a fait 2 jours de tournage en une journée. Puisque tout a été fait en une journée. Sauf eux, ils avaient prévu des trucs un peu à l'avance et tout. On a fini de tourner à 4 heures du matin et c'était intense. Mais, c'était trop chouette de faire un projet comme ça où bah, je pouvais dire n'importe quoi et ça allait bien se passer, quoi. Enfin, n'importe quoi. Je restais de mon personnage, mais franchement, j'ai adoré cette vidéo. C'était une de mes préférées, je crois, à faire avec quelqu'un. Donc.
Est-ce que tu peux nous la raconter un peu, quand même?
C'est vrai que là, je dis des trucs et les gens sont là de quoi elle parle. Donc, le projet, c'était de faire une espèce de parodie de D-Echo, cette émission incroyable qui a bercé mon enfance. Et donc, je voulais incarner la Valérie D'Amido du monde ludique. en refaisant la ludothèque de Simon du Passe-Temps, qui était vraiment un taudis, cette pièce dans son appartement. Vraiment, mes réactions qui sont filmées sont les mêmes, pas filmées. J'étais là, mais c'est horrible. Enfin, comment tu peux inviter des gens chez toi pour jouer? Bien parce que, c'est comme ça, quoi. C'est bazar. Et puis, il a énormément de jeux. Moi, je n'ai pas... Ma ludothèque est très corporate. Il y a énormément d'Ori Games et quelques autres jeux. Mais sinon, je vais jouer chez les gens, tu vois. C'est plus facile.
Et donc, le but, c'était de refaire en une journée toute sa ludothèque. Donc, de trier ses jeux, de refaire la déco, de bouger des meubles, d'acheter des meubles. C'était un projet monstre, mais... On refait sa ludothèque. Voilà, d'habitude, c'est une semaine pour tout changer dans déco. Là, c'était une journée pour tout changer. Et donc, on dirait qu'on est accompagné par une énorme prod. Pas du tout. Il y avait deux personnes qui filmaient, dont Baptiste, à l'époque du passe-temps. Il filmait, mais il faisait aussi d'autres trucs. Donc voilà, on a fait tout sur cette énorme journée. On attendait en plus en même temps une livraison très précise de sa table de jeu qui devait arriver, livrée par des Polonais. Que donc, entre-temps, on s'est interrompu pour aller chercher les mecs. Enfin bref, plein de Le tri des jeux de Simon. J'ai cru que j'allais péter mon crâne. Enfin, c'était pas possible. C'était une vraie journée sport, hein, vraiment. Un déménagement, c'est le même épuisement. Puis on a monté des meubles. Enfin, moi, on me dit, tu viens faire une réno, je vais faire une réno. Même si je n'ai aucune expertise. Mais j'adore ça, je trouve ça trop drôle. Enfin, bref, c'est des délires de gens qui ont envie de faire des trucs marrants, quoi.
Encore une fois, plutôt spontané, en fait.
Alors, plutôt spontané, voilà. Oui. Non, on revient à cette spontanéité. Ouais. Je pense que ça marche bien dans ce milieu-là, écoute.
Tu parlais de ta ludothèque, perso. Ouais, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quelle joueuse es-tu ?
Mm-hmm. Quelle joueuse je suis ? Petite, j'adorais les gros jeux. Et parce que j'ai découvert très tôt le milieu du jeu moderne. J'étais un excellent cobaye pour mon paternel. Et j'adorais les gros jeux. Puis après, j'ai eu un moment de... Ah non, en fait, je vais peut-être me trouver une personnalité. Donc, j'aime plus les jeux. Donc, j'ai eu une énorme coupure de l'adolescence jusqu'à être un jeune adulte. Quand je suis retombée dans les jeux, bah là, j'ai redécouvert cette fibre que j'avais qui était... Je me posais même pas la question de... est-ce que j'aime bien les jeux ? Enfin, en fait, je préfère toujours une soirée où on joue, une soirée où on joue pas. Et donc, je suis un assez bon public. Parce que comme je te disais, tu me demandais un jeu auquel tu rejouerais jamais. Il y en a pas. Mais j'aime beaucoup, et je m'en suis rendu compte ces dernières années, la déduction. Je crois que c'est un des trucs qui me fait le plus de bien. Genre, c'est un vrai moment de pause pour moi. Parce que ça fonctionne bien avec la manière dont je réfléchis. Une idée va faire popper une autre idée, et donc s'il se passe ci, il se passe ça. C'est la manière dont je pense dans ma vie. Et donc, la déduction, c'est un truc qui me procure énormément de plaisir. Et sinon, les jeux où on se marre, les petits jeux d'ambiance, où les gens autour de la table ont passé un bon moment, tu vois. J'aime pas du tout les jeux où il faut mentir. J'ai l'impression de trahir les gens pour de vrai, c'est très bizarre. J'ai des potes qui sont trop forts pour ça, qui adorent et tout. Les jeux où il faut mentir et je suis gentille, il y a pas de problème. Mais alors là, je défendrai les gentils jusqu'au bout, j'adore. Et dénicher les méchants, j'adore. Mais par contre, être méchante, c'est... horrible. Enfin, la dernière partie de Time Bomb que j'ai faite, j'étais tellement pas bien d'être méchante que j'ai oublié. Non mais je me suis fait éclater par tout le monde. Aussi, il y a quelqu'un qui est rentré au milieu de la partie, tu sais, qui a fait une pause. Et donc, j'étais tellement pas contente d'être méchante. On fait une pause et tout, on reprend. Et je suis persuadée d'être gentille. Et donc, on poursuit la partie. Et là, bah, les gentils gagnent. Je suis là, ouais, trop bien. Et je retourne ma carte. Et j'ai un moment d'effroi et tout. Les gens qui étaient avec moi me regardent, mais en m'incendiant, en me disant, mais t'es complètement con, mais t'as rien compris, on comprenait pas ta stratégie depuis le début et tout.
Mais il n'y avait pas de stratégie, je pensais que j'étais gentille.
Donc la fois où tu as le mieux menti pendant un jeu où il faut mentir.
Je pense que les gens qui savaient que j'étais méchante se sont dit, mais elle est incroyable, mais quel skill de mensonge. Je suis une énorme quiche en jeu de mensonge. Par contre, les trucs de bluff, ça j'aime bien, tu vois, parce que c'est de la strat pour moi, c'est différent. Et les jeux coop, je crois que c'est pas trop mon truc. J'ai été élevée avec un truc de « on s'en fout de qui gagne, on s'en fout de qui perd », mais la compétition, c'est quand même un truc... Enfin, le fait d'essayer de gagner, c'est un truc qui me stimule pas mal. Par contre, je m'en fous de gagner, je m'en fous de perdre. J'aime bien avoir un goal. Le goal de « tout le monde gagne », si c'est pas un jeu avec un thème un peu fun, un truc un peu original, les jeux coop pour être coop, ça va me saouler. Après, comme d'hab, hein, tu me proposes un jeu coop, bah je joue. Et je serais très contente de jouer. Mais quitte à choisir, je prendrais du compète. Déduction compète et du fun.
Est-ce que des personnes t'ont inspiré, à la fois dans ton métier, à la fois dans le monde du jeu, mais aussi en dehors ?
Je suis pas mal inspirée par des nanas comme Fanny, justement. Elle m'inspire dans le sens où elle essaye pas de suivre un modèle, une tendance ou quelque chose. Elle s'écoute et elle fait surtout du contenu qui lui plaît et du contenu qui parle aux gens qui la suivent. Il y a une vraie notion de communauté et de « les gars, j'ai testé ce truc-là, si vous me suivez, ça va forcément vous plaire ». Et donc, il y a ce truc de son univers, si t'accroches, et tu vas forcément avoir envie de découvrir ce qu'elle a te donner. Mais il n'y a pas cette volonté de suivre tout, d'être dans la performance, qui est assez rare dans ce milieu-là, parce qu'on nous pousse justement sur les réseaux à avoir des bons chiffres, à avoir les meilleures stats, à avoir plus d'abonnés, à avoir des gens qui te suivent. Que si tous les gens qui te suivent, ils s'en foutent de ton contenu et ils t'ont suivi juste parce que t'as fait une bonne pub à un moment, c'est moins qualitatif. Et puis surtout, l'impact que t'auras sur la vie des gens, il sera un peu moindre. Puis elle a cette aura de bonne humeur et de ce qu'elle te transmet, c'est de la joie. Et c'est très authentique et c'est spontané. Et je pense qu'aussi, ça se rapproche de ce que j'aimerais créer comme contenu. Voilà, dans le milieu pro, je trouve qu'il y a tellement de nanas inspirantes et ou de comptes inspirants où les meufs, elles s'écoutent, elles font ce qu'elles veulent et c'est trop cool. Mais parmi celles-ci, c'est une bonne inspi.
Alors, c'est Fanifique sur les
Fanifique
réseaux.
Fanifique sur les réseaux, qui a une chaîne YouTube depuis plus de 10 ans.
Et justement, tu parlais de femmes inspirantes. Mmh. Est-ce que tu as l'impression d'être un modèle pour certaines joueuses?
Pas vraiment. J'ai pas du tout l'impression d'être un modèle, pour le coup. J'ai l'impression d'être un bon divertissement, d'être une petite bouffée d'air frais. Ça, je le ressens et c'est un peu ce que je cherche. Mais j'ai pas l'impression d'avoir quoi que ce soit auquel on pourrait ou on devrait s'identifier et qu'on devrait garder, tu vois. Non, je t'avoue que je me suis jamais penchée sur la question de ce côté-là. J'essaie de proposer quelque chose de positif et qui va amener un petit moment de bonheur aux gens. Mais je me suis pas posé la question comme ça. Alors peut-être, ça serait trop chouette. Quand j'ai des enfants qui me suivent, je me dis « Oh, qu'est-ce que j'ai dit comme gros mot ?» Apparemment, il y a un enfant qui va dans les magasins et à l'école et il fait des doigts à tout le monde parce qu'il paraîtrait... En fait, je l'ai revu, donc c'est sûr que dans une vidéo, j'ai fait ça, mais je me souvenais pas. Dans une vidéo de Croa, je fais des doigts et je fais « Bisous !» Et donc le môme, dès qu'il rentre quelque part, il a 6 ans. Alors, j'ai un peu honte, mais c'est aussi un fait d'armes. Je vais pas vous mentir. Je suis trop fière. Mais...
C'est pas moi, c'est Tatiana.
Mais en fait, c'est ça. Je crois que j'ai envie aussi de montrer que la vie, c'est pas toujours sérieux et qu'on peut s'amuser. Peut-être que c'est, peut-être qu'il y a ça à choper, tu vois.
T'as
et
qu'on créé peut un mini Mr Bean.
En plus, c'est ça ma ref. C'est que moi, j'ai été élevée au Mr Bean, donc j'aimerais être inspirante pour les gens, mais je ne sais pas si je le suis encore, mais on verra, peut-être plus tard.
Et qu'est-ce que tu penses des femmes dans le milieu du jeu de société aussi?
Je pense qu'elles sont courageuses et je pense qu'elles ont raison d'être sur les réseaux et qu'il n'y a pas assez de femmes qui ont de la lumière. Et je pense que, en fait, ce qui est chouette, c'est que les nanas dans le milieu du jeu, elles s'entraident quand même pas mal et elles sont aussi conscientes des enjeux que ça a d'être une femme sur les réseaux. C'est une super chouette chose qu'il y ait de plus en plus de nanas sur les réseaux, mais c'est aussi compliqué parce qu'en fonction du contenu que tu produis, tu vas être très exposée. Moi, j'ai une place de choix dans le sens où je suis extrêmement protégée par le canal par lequel je m'exprime. Le fait d'être chez un éditeur, j'ai vraiment très très peu de harcèlement. Genre, j'ai jamais ressenti un mal-être à cause de ça parce que je suis protégée dans cette structure. Mais je vois tellement et je connais tellement de nanas qui, elles, subissent le harcèlement. Et en fait, je me dis, je sais pas, j'ai un peu ce truc de... Est-ce qu'il faut continuer à créer du contenu malgré les haters ou est-ce qu'il faut se protéger? Et en fait, oui, il faut continuer, mais il faut s'entraider pour que ça soit plus doux et plus simple.
Et comment tu vis ton personnage de figure publique? Par exemple, là, je suppose qu'il y a des gens qui viennent te solliciter sur le festival.
C'est très cool parce que c'est ponctuel, dans le sens où je m'en rends pas du tout compte dans la vie de tous les jours. Et voilà, mais sur les salons, c'est les moments où on rencontre les gens. Et c'est super chouette de voir justement des gens qui sont là. Cette vidéo-là, elle m'a fait trop rire. Vous me faites trop rire. Je suis là, génial. C'est super, ça me fait trop plaisir. Mais je sais pas du tout gérer le compliment, par contre. Enfin, je ne sais pas accepter un compliment. Enfin, je sais, j'apprends. Je sais jamais où foutre. Et donc, les gens qui sont là, c'est trop bien ce que tu fais. Je suis là, merci, c'est trop cool. J'ai envie de dire toi aussi, ceux qui font rien. C'est comme au ciné, bonne séance, merci vous aussi. Non, on lui regarde pas le film. C'est la même sensation. Ça y est, j'ai intégré que je fais du contenu qu'il a regardé, mais j'ai toujours cette sensation de oui, enfin comme n'importe qui d'autre, mais c'est très chouette de rencontrer des gens et c'est surtout trop chouette de les reconnaître d'un festival à l'autre. Je retiens très bien les visages, les prénoms un peu moins. J'essaye vraiment de me souvenir des gens parce que je trouve que c'est un cadeau. Enfin, je me sens hyper privilégiée en fait d'avoir des gens qui prennent du temps pour m'écouter, leur raconter un truc. Vu le nombre de contenus qui existent aujourd'hui, ils ont choisi de prendre leurs 5 petites minutes là pour me regarder, pour m'écouter. C'est énorme. Donc en fait, je les remercie aussi. Et parfois ils sont là, bah non, mais c'est normal. Et je dis mais non, c'est vous avez consacré du temps à juste écouter ce que j'ai à vous dire. Donc c'est un sentiment de mélange de je suis gênée, je sais pas où me foutre, mais je suis très heureuse. Et donc continuez à venir me voir parce que je serai toujours trop heureuse de vous rencontrer. Et voilà. Mais c'est vrai que la première fois qu'on m'a demandé une photo, j'ai dit ah oui, et j'ai cru qu'ils voulaient une photo, mais deux, bah je les ai pris en photo. Ils m'ont dit non, mais avec toi. J'ai fait ah pardon. Pardon. Mais non, là, le plus cocasse, on m'a reconnue dans un dojo de sabre laser. J'étais pas prête. J'avais offert ça à mon beau-père. On a pris un cours privé de sabre laser. Et en fait, la nana me reconnaît, la prof de sabre. Et j'étais dans le coin un moment, accroupie, je les filmais parce que j'arrivais plus, j'étais trop fatiguée. Je me suis dit, oh non, elle va me dire pourquoi tu fais pas les exercices et tout. Je croyais que j'allais me faire engueuler. Et elle me fait, ah, mais t'es Tatiana des petits pitchs. Et là, je me rends compte que je dis, ok, j'ai un t-shirt Hong Kong, je ressemble à une chargée de prod, mais qui fait du sabre, genre, j'avais aucun flow. Je dis, bah, oui. Et je bug, en fait, de sa question. Elle me dit, mais en fait, mon mari est fan. Du coup, je lui ai envoyé un texto quand t'es arrivé. Et il arrive, là. Ok, bah, trop bien. Et le mec était adorable, et elle était adorable. Et je me suis dit, mais, truc de zinzin, quoi. T'es en train de faire du sabre laser à quelqu'un qui connaissait les petits pitchs. C'est fou, la portée de YouTube. C'est génial.
Ça va continuer, hein.
Voilà. En tout cas, on espère pour toi que ça continue.
Bah, c'est gentil. Pour moi, c'est pas un goal, de vie. Parce qu'on me pose souvent la question, ah, mais du coup, tu faisais du contenu avant, ou tu vas faire du contenu après. Je cherche pas la notoriété spécialement. Je suis trop contente que les gens connaissent et ça me fait trop plaisir. Évidemment, bah, ça arrive quand t'es public sur YouTube. J'ai vu aussi, je connais des gens et j'ai des potes qui sont très exposés. C'est pas facile à gérer. Aussi d'avoir ce truc de tu n'es jamais anonyme et je suis quelqu'un qui a besoin aussi de pouvoir ne pas être reconnu, tu vois. Et évidemment que c'est totalement ma vie actuelle, hein, mais on part d'un futur de fiction. Peut-être que je ferai d'autres trucs sur les réseaux un jour, mais je crois que ça sera toujours pour faire rigoler ou pour faire passer un bon moment, pas pour être connu.
Est-ce que t'as des choses à ajouter ?
Pas spécialement. Suivez tout ce qu'on fait. Je pense que si vous connaissez pas et que vous cherchez un petit peu de fraîcheur dans le monde du jeu, n'hésitez pas à regarder les petits pitchs sur la chaîne d'Ori Games. Puis je tenais à vous remercier pour vous et les contenus que vous faites et de donner la parole à plein de gens et plein de personnes de tout type et tout métier. Et c'est important d'avoir des voix aussi qui mettent pas toujours les mêmes personnes en lumière. Continuez ce que vous faites.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien !